France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous avez la parole, bonjour Cécile.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Inter.
Merci beaucoup. Je voulais avoir le regard d'un humaniste et d'un homme de loi à propos de ce qui se passe à l'heure actuelle à la frontière de italienne, à Vintimille, avec les migrants qui arrivent par centaines. Et pour lesquels il est absolument interdit d'apporter à manger. On est passible d'une amende à l'heure actuelle lorsqu'on va les aider, lorsqu'on va les nourrir, leur apporter des médicaments. Il y a beaucoup de gens actifs ici dans le sud qui essaient de passer outre. Donc je voudrais déjà le regard d'un humaniste sur ce qui se passe, sur cette non-assistance, sur des populations qui sont en danger. Et comment contourner la loi ? Puisque la loi nous l'interdit, comment faire pour passer outre ?
Merci beaucoup Cécile. Henri Leclerc vous écoutez attentivement et vous répond.
Il est évident qu'on passe outre à ces risques et périls, mais qu'il faut passer outre. C'est-à-dire qu'il me paraît impensable de laisser quelqu'un qui a faim, ou quelqu'un qui est perdu, ou quelqu'un qui frappe à sa porte, dehors, à ne pas pouvoir vivre. Il y a une espèce d'obligation générale de sécurité. Une obligation générale, j'allais employer un mot qui est très bon, mais qui est un peu rejeté, une obligation générale de fraternité qui est indispensable. Vous savez, on obéit à un ordre. On peut obéir à l'ordre de sa conscience. On peut obéir aux principes fondamentaux. La loi, elle est peut-être nécessaire, qu'importe. Mais d'abord, dans ma vie, j'ai connu ça déjà en 96. Déjà, nous avions eu beaucoup de difficultés à ce sujet. Et non pas que nous prenions le fait, à la Ligue des droits de l'homme, le fait d'aider les gens, mais parce que nous ne pouvions pas supporter qu'on condamne ceux qui l'avaient fait. Je me rappelle que j'avais utilisé une formule qui était Cogedou et Spinoza, qui raconte que dans l'Odyssée, quand Ulysse approche des sirènes, il fait boucher à la cire les oreilles de ses compagnons et demande qu'on l'attache, lui, au mur, au mât, avec une interdiction absolue de quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, de le dégager. Et, bien entendu, quand il entend les sirènes, il supplie, les autres ne l'entendent pas, il supplie qu'on le laisse aller vers les sirènes et ses compagnons obéissent à l'ordre précédent, qui est supérieur au nouvel ordre qu'il donne. Et moi, je crois qu'il y a un ordre de la conscience qui est quelquefois supérieur, c'est rare, mais ça existe, qui est quelquefois supérieur à la loi. Et c'est tout ce que je peux dire, c'est-à-dire que la loi est ce qu'elle est, mais je pense que ceux qui ont fait cela ne méritent pas la prison.
Thierry, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Bonjour, alors grand plaisir de vous retrouver, même si j'étais pas très contente de perdre Monsieur Cohen.
Mais ça s'appelle un dilemme, Thierry.
Exactement.
Alors allons-y.
Donc je voulais vous poser la question suivante, j'en ai deux en fait. Que pensez-vous des plaidoiries dans le cas où les coupables le sont, c'est-à-dire une sorte d'acharnement des avocats à défendre quelqu'un qui semble, ou qu'il est, ou qui est évidemment coupable, et même l'avocat le sait, mais il va le défendre jusqu'au bout, et je ne comprends pas parfois la raison de ce truc-là.
Maître Leclerc vous répond, Thierry.
C'est un sujet de mon livre. Lorsque quelqu'un nie les faits, il est évident que l'avocat qui plaide pour lui est dans une situation qui peut être difficile, mais surtout, d'abord il y a un premier point, c'est le doute. Et l'avocat, à force de lire le dossier, va trouver qu'il y a des éléments de doute. Mais souvent, il acquiert même, à force d'éclairer les faits d'une certaine façon, il acquiert même la conviction qu'il est innocent. Et c'est vrai qu'il peut se tromper. Mais c'est vrai que c'est très important, parce que voyez-vous, il y a quelque chose d'essentiel. Et si, c'est pas bien qu'il y ait un coupable qui échappe à la justice, c'est vrai, mais il vaudrait mieux, comme disait un grand juriste du XVIIe siècle, relâcher 1000 coupables que de condamner un innocent. Et il faut qu'il y ait toute la force de la contradiction à des preuves qui sont toujours contestables, toujours contestables. Quand elles ne le sont pas, eh bien moi, à mon avis, l'avocat ne peut pas faire grand-chose. Et sa meilleure solution, c'est de plaider, de convaincre son client d'avoir un autre système de défense.
Éric, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Bordeaux, bienvenue.
Oui, et puis un petit mot pour vous féliciter de la qualité de vos émissions. Quel que soit le présentateur, ça reste toujours le faire de voler.
Il faut rester modeste, hein, Eric. Vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, merci de m'avoir pris. J'avais simplement une petite question à poser à votre invité. Partant du principe que le but de la justice, c'est de rendre le droit, mais que le droit est aussi rendu par des hommes, je voulais savoir si votre invité, en tant que juriste, mais aussi en tant qu'homme, n'aurait pas de scrupule à défendre les auteurs d'attentats. C'est l'actualité actuellement.
Merci beaucoup pour cette question qui traverse aussi votre livre, Henri Leclerc.
Certainement pas.
Alors, qu'est-ce qui est certainement pas ?
Je crois que certainement pas, je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas de difficultés, mais les terroristes doivent être défendus. Ils doivent être défendus. Et il faut pour cela des avocats qui ont un singulier courage. Ce qui ne veut pas dire qu'on défend le terrorisme. Ce qui veut dire qu'on se pose le problème de l'homme. Alors, cette situation actuelle, j'en parle dans mon livre pas mal, mais cette situation actuelle ne se présente pas, parce que c'est vrai qu'on voit difficilement les choses, dans la mesure où ce sont des gens qui préfèrent la mort à tout, ils choisissent la mort. Bon, donc nous sommes en face d'une difficulté de l'humanité qui est effrayante. Il n'empêche qu'on ne peut pas les condamner sans qu'ils soient défendus, et que l'avocat est là pour ça. Ce n'est pas une question de scrupules, c'est une question de recherche des mots, de ce qu'il peut espérer comme la meilleure justice possible pour celui qu'il défend.
Comprendre.
Déjà, on ne peut plus le condamner à mort, ce qui pour beaucoup de gens est incompréhensible.
Comprendre pour défendre, c'est l'une de vos méthodes, Henri Leclerc. Il faut comprendre la personne qu'on défend, et bien la comprendre. Vous comprendriez un terroriste si vous étiez amené à le défendre ?
Je n'en sais rien. Vu de l'extérieur, sans m'y être employé, j'ai du mal à le comprendre, c'est vrai. Mais je déteste particulièrement les propos qui avaient été émis par un Premier ministre, qui était de dire « comprendre, c'est déjà excusé ». C'est absurde. Il faut comprendre. On ne peut pas juger sans comprendre. Après, la justice passe. La justice passe, mais au moins elle a compris. Et elle punit à une peine qui est une peine qui doit être proportionnelle et équilibrée en fonction non seulement de l'acte commis, mais de la personnalité de celui qui l'a commis.
Paul, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez des Côtes d'Armor, vous attendez depuis 25 minutes, c'est un scandale. Vous avez la parole.
Bonjour, maître Leclerc.
Bonjour.
Je suis vraiment heureux de vous retrouver d'une certaine façon, parce que quand j'étais militant actif du syndicat des instituteurs, j'ai milité en quelque sorte avec vous quelques 24-48 heures dans des colloques sur la laïcité. Alors j'aimerais avoir votre point de vue. Vous avez cité les mots de la République, mais la Constitution dit que la République est démocratique et aussi laïque et aussi sociale. Je pense que c'est un tout. Alors sur la laïcité, que pensez-vous ? Est-ce que vous avez un avis sur l'état de la laïcité aujourd'hui à travers deux services publics, par exemple l'école, bien sûr, mais aussi le service public d'information. Je pense en particulier à la télévision. Alors, je ne veux pas être agressif, mais je trouve qu'on nous monte avec gourmandise. Tous les grands athlètes, par exemple, j'ai regardé récemment les championnats du monde.
On va peut-être rester sur l'école. On va peut-être rester sur l'école, Paul, pour commencer sur la laïcité. Donc, dans quel état est-elle aujourd'hui en France ?
La laïcité, c'est un principe fondamental.
Henri Leclerc.
Qui a été défini par la loi de 1905 et à laquelle a particulièrement collaboré quelqu'un qui a été longtemps le président de la Ligue des droits de l'homme que j'ai présidé, qui est Ferdinand Buisson. Et donc je trouve ça, la définition qui est donnée là est extraordinaire. La liberté, c'est quoi ? C'est d'abord le respect de la liberté de conscience. Premier point. Et deuxièmement, c'est la neutralité de l'État. Voilà ce qui est essentiel. Et ça, bien entendu, l'élément essentiel de la laïcité, c'est l'école, parce que l'école doit laisser les consciences libres, et parce que il n'appartient pas à l'État d'intervenir sur ce sujet. Mais la laïcité est évidemment un élément fondamental de la République, parce que c'est un élément fondamental de la liberté et de l'égalité entre les hommes.
Elle est, comment dire, dans un piteux état aujourd'hui ?
Écoutez, elle est attaquée par là où, à mon avis, elle ne doit pas l'être. C'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que le problème de la laïcité se pose à l'égard des musulmans, ce qui n'a rien à voir avec le principe fondamental de la laïcité. Les musulmans sont une religion qui a droit à la liberté de conscience, comme les autres religions et comme ceux qui n'en ont pas.
Une question d'actualité dans le sillage de celle de Paul. La France va sortir de l'état d'urgence. Vous vous êtes élevé contre l'état d'urgence dès son instauration. Certaines de ces dispositions vont être traduites dans la loi. Ça vous inquiète ?
Oui. Le jour où l'état d'urgence a été promulgué, j'ai écrit un article dans une grande revue juridique pour dire que, selon moi, il était peut-être nécessaire de le faire quelques jours, mais que dès sa prolongation, ce n'était pas bon. Parce que je disais, il est plus possible de sortir de l'état d'urgence. Car ce qui avait été dit là aussi par un Premier ministre, c'était « on ne sortira dans l'état d'urgence que quand le terrorisme sera fini ». C'est évident que là, on n'en sort plus jamais. Et le problème de l'état d'urgence, c'est qu'il porte atteinte aux libertés de tous, sous prétexte de combattre les terroristes, sans être certain qu'il est efficace par ailleurs. Et l'idée du nouveau président de la République, qui est de sortir de l'état d'urgence, c'est-à-dire que ça va devenir un état permanent, un certain nombre de ces dispositions vont s'inclure dans la loi. Quelques-unes ont été atténuées, mais pas toutes. Et moi, je continue à penser que pour lutter contre les terroristes, il n'y a pas besoin de limiter la liberté de tous.
Donc, dans la vieille tenaille sécurité contre liberté, vous êtes et restez du côté des libertés. Est-ce que vous comprenez ceux qui demandent la sécurité ?
Mais bien sûr, mais je suis. C'est pas parce que le problème. Je ne suis pas contre la sécurité, bien sûr. Je suis pour la sécurité. Mais je ne pense pas que c'est en réduisant les libertés de tous qu'on assure la sécurité. La sécurité doit être assurée par des mesures de police, par une organisation policière, par des services de renseignement, par un certain nombre de choses. Mais affaiblir les droits de la défense, affaiblir le pouvoir judiciaire, ce n'est pas bon pour une conception de la liberté dans une société démocratique.
Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour Monsieur Leclerc, bonjour les journalistes et bonjour les techniciens. Je voudrais
tout le monde vous fait coucou.
Coucou. Je voudrais m'adresser à Maître Leclerc pour un problème assez grave et particulier ici en France. Avant les élections, on a assisté à un débat entre Kosciusko-Morizet et Jean-Claude Urvoas sur la peine perpétuelle réelle. Les LR voulaient la mettre dans la Constitution. Et Jean-Claude Urvoas a dit, mais nous l'appliquons avec Georges Ibrahim Abdallah, qui est un prisonnier politique ici en France à Lannemezan, qui va entamer sa 34e année de prison, qui est libérable depuis 1999. La justice l'a libéré, mais le gouvernement ne le lâche pas. Que pensez-vous de ce cas et de cette peine perpétuelle où à l'époque, si vous vous rappelez, Maître Leclerc, je sais que vous êtes très cultivé, où quand on envoyait les gens au bagne, on leur disait, c'était la guillotine sèche.
Oui, merci Gilbert. Henri Leclerc vous répond.
Bien sûr, je ne crois absolument pas aux peines perpétuelles réelles. Je n'y crois pas parce qu'effectivement, c'est la guillotine sèche. Et le cas de Georges Ibrahim Abdallah est un cas effectivement qui est important compte tenu des 34 ans. J'ai connu pire, hein. J'ai connu mais des délinquants privés comme Lucien Léger qui a fait plus de 40 ans. Mais le problème est que c'est ce caractère irrémédiable. Ce caractère définitif d'un enfermement total, sans aucun espoir, d'abord, même les surveillants de prison n'y tiennent pas tellement, et ensuite, il faut toujours donner à un homme une petite part d'espérance dans ce qui est sa vie. Si vous n'avez devant lui que le désespoir, en définitive, vous lui retirez un caractère essentiel de l'humanité. Alors, je n'ai pas dit que ça devait être facile. Autrefois, c'était des décisions politiques. Aujourd'hui, ce sont des décisions judiciaires. Il appartient aux juges d'apprécier la peine qu'ils ont prononcée dans leurs exécutions, dans leur application. Mais, en fait, je crois qu'on ne peut pas retirer tout espoir. On proteste, par exemple, contre le fait qu'on donne 3 mois ou 2 mois de remise de peine aux délinquants, aux prisonniers qui se tiennent bien, mais c'est absolument nécessaire. C'est les surveillants de prison eux-mêmes le souhaitent, parce que c'est une façon très bonne d'obtenir la paix dans les prisons.
Merci beaucoup Henri Leclerc d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir souscrit au principe de ce dialogue avec notre invité, La Parole et l'Action chez Fayard. Vos mémoires, le mot testament aussi, hein, est dans le livre.
Oui, j'employais un peu le mot testament. J'aime pas beaucoup ça.
Oui, je suis
pas très content.
Oui.
C'est pas le testament, ça veut pas dire grand chose. Surtout que moi, je raconte un truc. Je raconte ce que moi j'ai vécu. Je regarde mon ce que j'appelle d'ailleurs un itinéraire. Je le regarde, puis je le dis aux autres, regardez. Ça veut pas dire que vous pouvez faire comme moi, c'est pas dire que vous devez faire comme moi, c'est pas une leçon que je donne. C'est un récit que je fais qui peut aider les autres peut-être aussi dans leur propre réflexion.
Et lisez donc ce beau livre, La Parole et l'Action chez Fayard.